Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti ! Bienvenue dans cet épisode court sur un objet culturel. À sa mort, en 1954, la notoriété de Frida Kahlo était encore confidentielle. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. Son effigie est déclinée un peu partout à travers le monde en produits dérivés, posters, citations à gogo, t-shirts, porte-clés, tasses et autres sacs. Une imagerie galvaudée. Alors l'engouement est-il justifié ? Qui a fait de Frida Kahlo une marque ? Et quel est aujourd'hui son apport au féminisme ? On va en parler avec toi, Kémis. Salut !
Salut Clem.
Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord quelques éléments biographiques sur Frida Kahlo ?
Bien sûr. Frida naît près de Mexico. Son père est photographe allemand et sa mère est mexicaine. Et on ne sait pas vraiment pourquoi elle commence à peindre en fait. Elle écrit « Je n'avais jamais pensé à la peinture avant 1926 quand je suis restée alitée suite à un accident de la route. Je m'ennuyais beaucoup dans mon lit, j'étais plâtrée. Je m'étais alors fracturé la colonne vertébrale et d'autres os. » Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai chipé de la peinture à huile de mon père et ma mère m'a fait fabriquer un chevalet spécial parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Voilà comment j'ai commencé à peindre. Donc ça, c'est cité d'une lettre au galeriste Julien Lévy qui date de 1938.
Oui, alors à cette époque-là, son père aura aussi la bonne idée de lui installer un miroir au-dessus de son lit pour qu'elle puisse voir autre chose que ses pieds. Et donc elle écrit « J'ai travaillé toutes ces années avec l'élan spontané de mes sentiments. Je ne suis d'aucune école, je n'ai jamais revendiqué l'influence de qui que ce soit. De mon travail, je n'ai rien attendu d'autre que la satisfaction de peindre et de dire ce que je ne pouvais exprimer autrement. » Lettre à Carlos Chavez, octobre 1939. Alors ensuite, Frida Kahlo va rencontrer Diego Rivera, donc le muraliste qui est déjà très connu au moment de leur rencontre et qui va beaucoup l'encourager à faire de la peinture son métier. Leur relation, ce n'est plus un secret, a été très tapageuse et ponctuée de nombreuses tromperies. Lui-même a eu une histoire avec la sœur de Frida Kahlo, tandis qu'elle-même fréquentait de très près Trotsky, mais aussi des femmes. Donc voilà, bonne ambiance à la maison. Et à propos de leur couple, à la fois inséparable et ombrageux, elle écrit « Toi, tu n'as jamais compris qui je suis amour, plaisir, essence, je suis une connasse, une alcoolique, je suis tenace, je suis une peintre, et toi, tu es qui ?» Donc ça, c'est une lettre à Diego Rivera.
Très récemment, le Guardian et la bibliothèque audio de Mexico ont déterré un extrait de la voix de Frida Kahlo et on va entendre cet extrait où elle lit un portrait de Diego Rivera qui est un peu plus positif,
plus élogieux,
où elle décrit notamment son physique et le fait qu'elle le trouve beau, etc.
Viéndolo desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero.
Alors Frida Kahlo, c'est aussi une vie qui a été inséparable d'un engagement politique, n'est-ce pas ?
Ouais, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, elle a traîné très près de Léon Trotsky et elle était donc une grosse communiste. Elle était engagée dans la révolution mexicaine. Elle a même changé sa date de naissance qui passe de 1907 à 1910. Donc elle fut l'une des premières filles de son pays à s'inscrire à l'école préparatoire nationale. Donc c'était une école d'élite où elle adhère à un groupe universitaire de gauchistes. Elle a ensuite adhéré au Parti communiste mexicain, où elle a écrit des textes, où elle a fait des discours. Elle s'est engagée pour la paix, elle s'est même engagée pour le désarmement nucléaire. Elle a levé des fonds pour les anarchistes et les antifas pendant la guerre civile en Espagne. Et puis, lors de ses longues correspondances avec Diego Rivera, elle a dénoncé les conditions extrêmement difficiles des classes précaires américaines plongées dans les affres de la Grande Dépression.
Oui, parce que lui-même a été invité donc à exposer, à faire de grandes tournées aux États-Unis, voilà, dans laquelle Frida Kahlo a pu effectivement constater tout ça. Mais alors, je pense qu'il faut quand même parler aussi de son œuvre et de ses tableaux, puisque aujourd'hui, quand on se la représente, on voit surtout son visage et ça tend à obscurcir vraiment son travail. Une des raisons à cela, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à la situer dans l'histoire de l'art, puisqu'elle a d'abord été cataloguée avec les surréalistes, une appellation qu'elle-même récusait. Aujourd'hui, on parle plutôt de réalisme magique. Alors, dans ces toiles, qui trouve-t-on ? Elle incorpore des artefacts de la société traditionnelle, donc elle s'adresse au peuple, à la culture mexicaine et aux communautés autochtones. Elle se représente parfois comme une petite femme fragile, mais magnifiée car très haute en couleur, vêtue de tenues bariolées et aussi elle ne s'épargne pas une certaine violence. D'ailleurs, dans la manière dont elle va peindre le corps féminin souvent supplicié, devant des scènes d'accouchement, des fausses couches, mais aussi des féminicides. Il y a également dans ses autoportraits une dimension ornementale qui fait vraiment penser aux naïfs et peut-être aux douaniers Rousseau, si on veut. Mais alors la question qui nous occupe dans cet épisode, c'est pourquoi est-ce que Frida Kahlo est devenue une telle égérie féministe aujourd'hui ?
Bah déjà, on a eu un petit extrait dans la lettre dont tu nous parlais tout à l'heure. Hein. C'était une personnalité qui était totalement hors norme. C'était une femme artiste qui s'assumait, qui jurait, qui dansait, qui buvait. Et c'était quand même une personnalité assez rare à cette époque et même maintenant, hein, d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on peut aussi ajouter à ça que sa seule présence constitue une sorte de manifeste contre le validisme, puisque c'était quand même une personne handicapée. Elle avait eu la polio enfant, puis un accident de la route, et donc plus d'une trentaine d'opérations. Elle avait été amputée du pied, sa colonne vertébrale était brisée, elle était alitée.
Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle adorait porter des vêtements d'hommes, et puis elle se revendiquait beaucoup des cultures autochtones, puisqu'elle était issue de ces peuples. Sa mère venait donc des cultures autochtones du Mexique, sa nourrice aussi. Et puis elle portait beaucoup les vêtements traditionnels des Tehuanas, donc qui est une société matriarcale.
Ouais.
On kiffe. Et donc Amelia Messabin, donc une conservatrice de musée qui s'intéresse en particulier justement à l'art des femmes mexicaines-américaines et à la manière dont elle évoque un peu les questions d'identité, de colonisation, elle explique en fait comment le mouvement Chicana a pu s'identifier à Frida Kahlo et comment ce mouvement Chicana se différencie du mouvement féministe d'aucun pourrait dire blanc, institutionnel. Mmh. Et notamment sur la question de sa force, donc on peut l'écouter ici.
I think in the women's community, people identify with her as a victim, someone who suffered. Whereas I think among Chicanos, especially Chicanas, it is not her suffering that is significant, it's her resiliency, her capacities to overcome the suffering. But through it all, what people find in her is that she's brava, you know, she's really strong, she doesn't ever give up. And that's, I think, two different views of her.
Et alors, pour nuancer un tout petit peu cet enthousiasme dithyrambique, on a aussi sollicité l'avis de Magali Le Sauvage, qui est rédactrice en chef adjointe à l'hebdo du quotidien de l'art. Et donc, elle nous a donné son avis sur Frida Kahlo, je la cite. « Il y a une sorte de fascination pour son statut de femme victime qui est assez agaçante, un peu comme pour Camille Claudel, la femme artiste brisée par le génie masculin. On aime bien ce storytelling-là, les femmes artistes définies par leur partenaire masculin et brisées, bien sûr. » Un peu de nuance dans tout ça. Mmh. Mais alors, quelle est sa postérité aujourd'hui dans la pop culture, puisque j'ai l'impression que c'est un visage que l'on voit démultiplié un peu partout.
En fait, on peut parler de nombreuses rétrospectives et des expositions qui lui rendent hommage, comme celle de 2016 sur le Mexique au Grand Palais. Il y a beaucoup de parutions qui retracent son parcours, notamment, je vais en citer quelques-unes, hein, Frida Kahlo, La beauté terrible de Gérard de Cortance, qui est paru en août 2011 chez Albin Michel. Et puis, il y a aussi un roman volcanique, Rien n'est noir, de Claire Berest, qui est paru chez Stock. On est tellement habitué en fait, à son visage et à sa silhouette qu'elle apparaît même en guest dans Coco de Pixar, pour le faire calme.
You are the audience. Darkness. And from the darkness, a giant papaya.
Et alors, attention, par contre, gros nanar et dépaysement garanti avec le biopic Rococo de Julie Taymor avec Salma Hayek, aujourd'hui Salma Hayek-Pinault, petite mais costaud dans Frida, qui est donc sortie au cinéma en 2002.
I didn't come here for fun or to flirt. If I'm not good enough, I have to do something else to help my parents.
Un film qui a quelque peu édulcoré et glamourisé la vie de la peintre à grand renfort de fanfreluches, de maracas, de guitares qui crépitent et tout le folklore. Ça fait un peu mal aux castagnettes. Surtout quand on sait que c'est un film qui était produit par Harvey Weinstein, qui a ensuite harcelé sexuellement la comédienne Salma Hayek et l'a menacée.
Super !
Voilà, olé, olé.
Mais du coup, finalement, comment Frida Kahlo est devenue une marque
Oui, on peut se poser la question, puisqu'il y a même une Barbie Frida aujourd'hui, avec des petits sourcils. Bah alors, il y a une raison très simple à ça, puisqu'en fait, ces œuvres appartiennent d'abord au patrimoine du gouvernement mexicain, puisque Frida Kahlo leur a tout légué à sa mort. Mais évidemment, le capitalisme s'en est mêlé. Et en 2004, un homme d'affaires vénézuélien, Carlos Dorado, a flairé le bon filon. Et donc, il a tout simplement monté un partenariat avec la nièce de Frida, donc Isolda Pinedo Kahlo et sa fille, pour lancer son business qui s'appelle aujourd'hui la Frida Kahlo Corporation.
Mais c'est horrible.
Elle doit se retourner dans sa tombe. Donc, c'est FKC, hein, non pas KFC, le poulet frit. Et donc, cette corporation possède aujourd'hui et décline tout un catalogue de produits dérivés, comme de la tequila, du maquillage et même des pinces à épiler, oui, c'est vraiment
triste. Mais elle doit revenir les hanter, c'est pas possible.
Et donc, ce qui est plus grave à mon sens, c'est que cette compagnie possède aussi les droits de la marque, donc de la licence Frida Kahlo, à travers le monde. Donc il y a même une artiste américaine qui leur a fait un procès à cause de ça, puisqu'ils possèdent vraiment l'image de Frida Kahlo.
Oh là là.
Voilà, et je crois que dans la mode aussi, Frida fait des émules.
Mais clairement, il y a quelques années, il y avait la mode du unibrow, avec des tutos YouTube qui accompagnent évidemment les modes. Parce que du sourcil broussailleux de Cara Delevingne au monosourcil, il n'y a plus qu'un pas. Hein. Elle avait aussi une moustache, car Diego Rivera kiffait sa pilosité faciale, donc un peu body positive en fait.
Amen, sister. Grand bien lui fasse.
On peut retrouver la figure du monosourcil dans l'insta de l'actrice Yara Shahidi. Rihanna le montre un peu dans le clip Kiss It Better. On voit que la chanteuse Rosalie l'a repris. La mannequin Sofia Hadji Panteli aussi. Par contre, le maquillage ultra beauty a effacé son unibrow et c'est chaud quand même parce que c'est une figure, c'est un gros fail quoi. Enfin, pourquoi mettre Frida Kahlo si tu mets pas son monosourcil
fail
quoi.
De make-up.
Non mais c'est clair. Et puis évidemment, hein, quand on pense à des figures comme ça où l'image a marqué notre culture, il y a forcément la déclinaison déguisement d'Halloween, matinée d'appropriation culturelle que évidemment je ne valide pas.
Ne le faites pas. Voilà, sachez également que l'on peut visiter encore aujourd'hui la maison de Frida Kahlo, c'est la Casa Azul. Alors, Frida Kahlo est-elle un modèle pour vous ou bien le symbole dévoyé d'une imagerie publicitaire aseptisée ? Peut-être un peu des deux. En tout cas, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Vous pouvez également retrouver toutes les références dans la description de l'épisode et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut, merci Kiemis.
Salut Clem.
Quadmeuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté par Kiemis,
monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son et coordination Ashley Tola.